Max Doré, Maxime Doré. On est le 6 février 2019. J'aurais aimé ça dire 90. J'aime ça quand les Français, quand on écoute des vieilles émissions des années 90, 96, 97, 90 étant 90, je pense, dans un français absolument insupportablement pédant. Donc 90. Je m'ennuie de dire 90, les Français. Malheureusement, on ne peut plus dire, à moins qu'on soit en 2090, 2090. Alors, j'ai hâte en 2090. 2090, en passant, je vais être absolument décédé, enterré. Ça, c'est une affaire. À notre génération, je pense pas qu'on se fasse exposer. Il n'y a plus grand monde qui va se faire exposer, parce que c'est un peu creepy. C'est un peu louche d'être exposé quand tu es décédé. Mais je pense qu'il y a un but à ça. Je pense, même certain. Il y avait comme un besoin psychologique des proches de voir le défunt ou la défunte pour comme réaliser, je pense, qu'il est décédé. Je ne sais pas si ça a changé, vu qu'on maintenant on incinère majoritairement. Donc, c'est une espèce de petite boîte avec les cendres du défunt ou de la défunte. Donc, je ne sais pas si on n'a pas réalisé personne maintenant depuis un certain temps que les gens sont morts autour de nous. Je ne sais pas si c'est l'effet contraire. Mais oui, c'est de se faire exposer, il y en a de moins en moins. Je ne sais pas s'il y en a de ma génération. Je répète, j'ai 40 ans. Je ne sais pas s'il y en a encore qui se font exposer. C'est un peu bizarre. Puis souvent, des fois, ça dépend. Là. Quand la mort est moindrement violente, ben là, c'est encore plus weird. Quand tu meurs dans ton sommeil, c'est une chose, ils ont juste à te mettre les petites mains croisées. Puis on devrait recommencer en passant à mettre des scènes dans les yeux. Là. Tu sais, dans le temps, ils faisaient ça, là, dans le temps du western, un petit peu avant, ils mettaient des sous dans les yeux. Je sais pas, c'est mignon, ça. Ils faisaient une espèce de look death, un look cool, là. Tu sais, moi, mettez-moi... Tu sais, au moins, mettez-moi des 2 piastres, là. Si vous me faites ça, sincèrement, j'espère, je vous le demande particulièrement. C'est une demande à Pauline Laboomer. Pauline Laboomer, si vous me faites ça, si vous me mettez de la... Si t'es encore en vie, parce que j'assume que je meurs avant toi, ce qui est louche, mais anyway. Donc, si t'es encore là, Pauline Laboomer, mettez-moi pas des 5 cents ou des 10 cents. Remarque, j'ai des petits yeux de 10 cents, moi. Pensant à ça de façon un peu louche, j'ai des yeux de 10 cents. J'ai pas des yeux de 25 cents. Anyway, essayez de me rentrer en. Tu sais, forcer, là. Je vous donne la permission de prendre un marteau, genre, puis mettez des 2 piastres, là. Des beaux 2 piastres, puis mettez-les du côté de l'ours polaire. Pas du côté de la reine, ça va être un peu louche, 2 grosses reines dans les yeux. Mais du côté de l'ours polaire, mettez-moi ça dans la face, puis ça va être absolument débile. Après ça, j'aimerais aussi simplement être momifié pour que qu'on me déterre à peu près dans 2000 ans. Puis qu'on dise de moi, on a déterré ce gars-là, what the fuck, pourquoi il a été modifié en 2030 ou en 2020 ou en 2050? C'était pas une année où on momifiait. Fait que je vais vraiment casser la tête des gens qui font des archéologues dans le futur. Ils vont se dire, est-ce que c'était un roi? Est-ce que c'était... Non, c'était simplement un homme qui avait demandé dans un podcast de se faire mettre des gros 2 piastres dans les yeux et d'être momifié. T'sais? Fait que c'est ça, s'il vous plaît. Momifié avec des gros 2 piastres dans les yeux, je vous en prie. Exposé en plus, puis assis. Tu sais, ce sera encore. C'est pas des petites affaires de même. Il faudrait qu'on commence à faire ça. On démystifie la mort, parce que la mort, on va tous mourir un jour. Donc, on commence à la démystifier avec des pauses. On devrait faire des pauses spéciales aux enterrements, là. Assis, de côté, tu sais, genre. Ou en train de lancer un ballon de football. C'est comme des caricatures, dans le fond. Tu sais, tu demandes à un petit gars ou une petite fille qui se fait caricaturer, qu'est-ce que tu veux faire? Mais oui, ça sera même affaire. C'est à ton décès. Moi, je vais voir un petit. Je vais ouvrir son funéraire, dans le fond. Puis ça va dire comment vous voulez être positionné à votre mort, les voir tout. Puis il va y avoir autre. Parce que, tu sais, moi, je vais suggérer, je vais dire football, lire un livre, en train de faire l'amour, en train de faire du un dab, tu sais, pour les quétaines. Autre. Il va y avoir autre. Parce que je suis un gars ouvert, moi. Moi, je suis un gars ouvert, je veux dire, c'est autre. Vous avez une autre idée que j'ai pas mis là-dedans, ben, allez-y, tu sais. Allez-y. Faites-moi votre suggestion, ça va être comme ça. Donc, je sais pas, je vais ouvrir ça bientôt, le Maxime... salon funéraire doré. Ma devise, ça va être le salon des années 3000. Je trouve de même. Non, pas de même. Je pense que donc j'ouvre l'investissement tout de suite. c'est ça, on est le 6 février 2019. La misère avec l'année. Alors, on va voir avec les first news. Il y a des belles choses aujourd'hui, des choses intéressantes, des choses à développer. It's a beautiful day in my neighborhood, a beautiful day in my neighborhood. C'est pas... y a-tu ça en français, enfin? Ce que vous entendez, c'est l'entrée du, de l'émission quotidienne Mr. Rogers Neighborhood. C'est devenu un, quasiment un mème avec les années, là. C'est l'homme, le monsieur qui faisait pas très télévision, surtout pour enfants, qui arrivait à les débuts... je sais pas si on a eu une version francophone, française, de Mr. Rogers Neighborhood, très populaire aux États-Unis, sur le réseau PBS. Le réseau, donc, gratuit, un peu le... je dirais Radio-Canada, mais c'est moins Radio-Canada PBS. Enfin, disons le Radio-Canada américain. Mr. Rogers Neighborhood, qui était une émission qui a duré des années, contre toute attente, parce que ça ne semblait pas du tout être appealing, donc attirant pour les enfants. C'est-à-dire qu'un homme qui parle, c'était très lent. Tu sais, le rythme était très lent, ainsi de suite. J'ai vu à travers les branches, j'ai peut-être vu un ou deux épisodes quand j'étais jeune de Mr. Rogers Neighborhood. Donc, le principe était simple. Il arrivait comme s'il arrivait du travail. Il se mettait confortable, donc il enlevait ses chaussures. Il le faisait très lentement. C'était très... Et après ça, il mettait une veste, toujours une veste de couleur différente pour démontrer qu'il allait relaxer, qu'il n'allait pas dans le même état que le travail. Donc il faisait ça. Et puis, par la suite, il s'en allait comme il parlait un peu d'une raison d'être X. Et il s'en allait dans un univers avec des marionnettes. Donc, c'était très rudimentaire comme façon d'être fait. Mais c'était très, très, très populaire aux États-Unis. Mais la nouvelle étant la suivante. J'ai vu, il y a un documentaire sur notre ami Netflix. Oh, t'as peu, le son n'était pas assez fort, on va recommencer ça. Donc, il y a un documentaire sur notre ami Netflix, our friend Netflix. C'est, écoutez ça, sincèrement, vous devez. C'est souvent, j'ai des recommandations parce que j'écoute par jour beaucoup de podcasts. On va parler de podcasts aussi tantôt. Podcasts, pour ceux qui ne savent pas encore, si vous êtes en train d'en écouter un en passant, ceux qui ne le savaient pas, c'est une façon, on enregistre donc une émission sonore pour être écoutée à n'importe quel moment. C'est ça, un podcast. Donc, j'écoute les podcasts de façon journalière, j'écoute plusieurs choses, les nouvelles. Et de temps en temps, le soir, juste avant de m'endormir, j'écoute quelque chose sur Netflix ou sur Prime, ou du moins toutes les à la télévision. Et il y a un documentaire. Donc, ce documentaire s'appelle « Won't you be my neighbor? » Est-ce que tu veux être mon voisin? C'est en lien avec son émission, parce que dans la chanson que vous avez entendue, il dit « Won't you be my neighbor? » Est-ce que tu veux être mon voisin? Écoutez, j'ai pleuré. J'ai pleuré. J'ai vraiment eu les larmes aux yeux. J'avais le goût de brailler comme Snoopy quand il était dressé. Il ouvre la bouche puis il tire la tête par en arrière. Quel homme exceptionnel, ce Fred Rogers. Il n'y a pas d'autre mot. C'est un homme exceptionnel. Tu sais, souvent, on regarde tout. C'est un homme qui était avec des croyances religieuses, donc il était ordonné. Il n'était pas catholique, mais protestant, donc il pouvait avoir une épouse. Adorait les enfants. Avait une émission. Donc, tu sais, souvent, aujourd'hui, malheureusement, avec dans le monde dans lequel on vit, rapidement, on va en tirer aux conclusions. Dire, il y a de quoi de louche. Là. Tu sais, un homme qui croit, qui a des croyances, qui aime absolument les enfants. Dans ce cas-ci, jamais rien n'est sorti avec raison sur Fred Rogers. C'est simplement, Fred Rogers est un cœur sur deux pattes. C'est exceptionnel. Le but de l'émission, c'est que lui, dans sa jeunesse, vous allez voir dans le documentaire qui a été fait par Morgan Neville, en 2018. Vous allez voir quand il était jeune, il a une enfance très solitaire pour M. Rogers. Il n'était pas physiquement très faible, avait des maladies. Donc, il était toujours seul et il devait s'y inventer des histoires sur son lit pour réussir à passer le temps. Donc, il a développé son talent créatif, développé son talent d'orateur. Et aussi développer une très grande sympathie pour l'être humain, parce que souvent, en tout cas en majorité du temps, pour avoir une sympathie, pour avoir une espèce d'empathie pour les autres, il faut être passé par certains problèmes. C'est un, tu sais, ça nous aide à grandir, ça nous aide à voir la faiblesse humaine, à voir la vulnérabilité de l'être humain. Mr. Rogers est passé par là. Et lui a décidé que les enfants, particulièrement les enfants, devaient se faire parler intelligemment des choses importantes. Et non juste des conneries, de sauter, tomber une tarte à crème d'en face, mais de parler des sujets comme la mort, comme le divorce, comme la séparation, mais sérieusement, avec un petit twist enfantin, mais de ne pas les prendre pour des cons. Et son émission, c'est ça. Et il le fait avec cœur, il le fait pendant des années. Écoutez, c'est un coup de cœur, c'est absolument exceptionnel, le documentaire a gagné des prix, bien sûr, parce qu'il mérite de gagner des prix, qui est allé à... Il a commencé à Sundance... Il a été aussi à Independent Spirit Award. Il a eu le best documentaire, donc le meilleur documentaire. Et le Time Magazine a choisi un des meilleurs films de 2018. Won't You Be My Neighbor? Et avec raison. C'est un homme exceptionnel. Sérieusement, il faut que vous regardiez ça. Ça donne le goût quand ça... Tu sais, le genre de vision de film, de documentaire, d'événement, de quoi que ce soit, que quand tu termines, tu as le goût de changer ta vie. Tu te réorientes, tu te regardes, puis tu te dis... J'ai le goût de faire quelque chose comme ça. J'ai le goût de faire du bien autour de moi. J'ai le goût, tu sais. Il inspire, cet homme-là. Il l'inspire encore aujourd'hui. Les gens qui sont dans le documentaire en parlent tous de cette façon-là. Un homme qui semble, écoutez, il reste un être humain. On connaît les êtres humains, ils ont leurs forces et leurs faiblesses. Mais lui, bordel, Fred Rogers, tu regardes, tu dis, as-tu déjà fait une erreur, ce gars-là? As-tu déjà été méchant? As-tu déjà... C'est un homme exceptionnel qui est allé au bout de ses rêves, au bout de ses projets. Vraiment, 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 vraiment. Si quelqu'un mérite un clapping. Oui. Si quelqu'un mérite un bravo, une félicitation, c'est M. Fred Rogers. J'ai dit M. Fred Rogers. Fred Rogers qui est décédé aujourd'hui, qui est mort. Il est mort du cancer. Mais il n'est pas mort aujourd'hui, mais vous comprenez ce que je veux dire. Il est mort du cancer il y a un certain temps. Et donc, oui, c'est Monsieur Fred Rogers. Donc, vraiment, dans ma liste de gens exceptionnels, j'en ai quelques-uns. Fred Rogers est vraiment dans les tops. C'est une belle personne, une belle personnalité. À un moment, tu sais, pour ceux qui connaissent Yo-Yo Ma, je le connais de nom. Je ne suis pas un grand amateur de musique classique, mais c'est un grand violoncelliste. Yo-Yo Ma, un des plus grands au monde. Il l'a rencontré étant jeune, juste pour vous dire comment les gens se rappellent et admirent et respectent Fred Rogers. Yo-Yo Ma, qui est une vedette mondiale. Yo-Yo Ma, bon, c'est pas un domaine qu'on connaît bien, c'est pas comme le rap ou quelque chose de même. Mais le violoncelle, la musique classique est très grande, surtout en Asie et en Europe. Et Yo-Yo Ma en est un dieu. Yo-Yo Ma, c'est Yo-Yo Ma. C'est un genre de Michael Jordan du... Michael Jordan. Mes références sont un peu vieilles, là, un peu honte. Là. Je pourrais dire quoi... C'était Stephen Curry. C'est un genre de Stephen Curry du violoncelle. Et juste avant qu'il meure, il a pris le temps d'appeler Mr. Rogers. Il a dit, mets le téléphone, s'il te plaît, et écoute. Et il lui a joué son hymne, sa musique favorite, qui était peut-être de Mozart, je ne sais pas c'est lequel, ou Bach. Je ne sais pas de qui, mais il a joué à l'oreille, ça, parce qu'il est décédé bientôt. C'est tout des choses comme ça. C'est la vie de Mr. Rogers, c'est s'occuper des enfants. Et le moment... Je vous le dis, là, le moment où il reçoit le petit garçon handicapé dans son émission, c'est là où vraiment votre humble animateur a failli se déshydrater de larmes. J'ai vraiment failli me déshydrater de larmes. Bravo à M. Rogers, quelle belle vie. Je vous le suggère, donc je le répète, ça s'appelle « Won't you be my neighbor? » Je ne sais pas comment ça se dit exactement, mais il faut, je vous le suggère sincèrement d'aller écouter ça, OK? Amener des Kleenex aussi.
It's a beautiful day in this neighborhood, a beautiful day for a neighbor. Would you be mine? Could you be mine? It's a neighborly day in this beauty wood, a neighborly day for a beauty. Would you be mine? Could you be mine?
Would you be mine?
I have always wanted to have a neighbor.
Rest in peace, Fred Rogers.
just a part of it. We've got the fulfillable. Won't you ever sing
redemption song? The songs of freedom. Tu sais, ça vieillit pas. Je m'excuse. Je sais pas vous autres, mais Bob Marley, ça ne vieillit pas, ces chansons. Ça finit pas par être vieux, croche. Tu sais, tu écoutes du Abba ou Take a chance on me. Tu sais, ça veut dire qu'il a vieilli, là. Il y a un problème. Il y a un problème avec ça. Même si c'est entertainant, Rasputin, une de mes chansons favorites de tous les temps. C'est impossible en passant de pas bouger sur Rasputin, OK? Je modifie quelqu'un. C'est super bon. Mais toujours est-il pour être cool. Tu sais, si tu veux être cool, là, si c'est pas, moi, je donne ça comme conseil à quelqu'un qui est pas certain de lui-même. Vous recevez des gens, tout le monde prend un drink chez vous, quelque part, que vous, vous avez organisé. Vous n'êtes pas certain de quoi mettre comme musique pour starter. Vous n'êtes pas sûr de vous-même. Vous connaissez pas vraiment la musique. Vous vous dites, est-ce que je mets Supertramp? Est-ce que je mets ci? Ça, vous n'êtes pas certain de rien. Je vous le dis, un passe-partout. Il n'y a pas personne sur la Terre qui va pas vous trouver cool, qui va pas admettre que ce choix de chanson-là ne sera pas bon. Startez avec Bob Marley. Sincèrement. Partez avec Bob Marley, il n'y a jamais de problème. Vous n'aurez jamais de problème avec ça. Tout le monde va être fier de vous. High five à partir de mur à mur. Ça va high fiver comme jamais il y a eu du high five dans votre vie. C'est Bob Marley. N'importe quel, c'est pas important. Il y a Bob Marley qui est décédé assez jeune du cancer. Donc, vous n'en avez pas des milliards de chansons de Bob Marley, mais peu importe les chansons que vous prenez de lui-même, c'est hyper, hyper, hyper bon. C'est toujours intéressant. Il y a son fils Ziggy aussi qui faisait de la musique. Puis il y a un de ses plus jeunes encore. Un plus jeune, je vais essayer d'aller le chercher en même temps que je vous parle. C'est tellement bon. C'est tellement, tellement bon. Les plus jeunes en question. En même temps que je vous parle, j'essaie d'aller voir. Parce que moi, je savais que Ziggy Marley, donc, avait fait de la musique. Avait essayé de faire un peu. J'essaie de remplir. Bon, il y a Ziggy, c'est Damien Marley. Le nom du chanteur en question, c'est Damien. Donc, c'est un des enfants de Bob Marley. C'est Antoine, mon fils, qui est mon maître à penser au niveau nouvelle musique, qui m'a fait entendre ça. Écoutez ça.
Medication. Your medication makes me high. Medication. Just be patient. I'm like a patient trying to find levitation. Run your fingers down my spine.
Wow.
Elevation.
Sérieux. Come on. Raise your head up. Donc, c'est Medication featuring Stephen Marley avec Damien Marley, si ça vous intéresse. Wow! OK? Le mot, là, c'est pas compliqué, c'est wow. Bon, mais tout ça, ça n'a aucun lien. Je faisais juste un lien. Hier, je sais pas, pour ceux qui ne savent pas, je vais juste expliquer. Hier, c'était le State of the Union. C'est quand le président explique son année à venir puis qu'est-ce qu'il va faire. Puis une parenthèse, OK? C'est choquant. On veut absolument de plus en plus, et votre auditeur, votre animateur inclus, que Donald Trump se mette les pieds dans les plats systématiquement. On l'aime tellement pas, et avec certaines raisons de le faire, qu'on veut toujours qu'il erre, qu'on veut toujours qu'il exagère, on veut toujours qu'il se trompe sur Twitter, on veut toujours qu'il soit stupide. Hier, il a été bon. Écoute, c'est triste, là, je le sais que c'est chiant, mais le State of the Union, il a été bon. Dans le fond, c'est pas compliqué. On se rend compte que Donald Trump est bon quand il lit des textes. Parce que ce sont des textes qui lui sont écrits, des textes qui ont été écrits pour lui. Donc, quand il n'est pas ad-lib, quand il n'est pas émotif, quand il lit des textes, sa philosophie, du moins, s'il le pense, c'est assez bien. On parlait d'une certaine ouverture. Ça a été un beau speech of the Union, State of the Union. Donc, c'est assez surprenant. C'est choquant. Je le sais. On veut qu'il se fasse ça. On veut qu'il se plante systématiquement, cet enfant de bip. Mais non, ça a été bon. Mais la raison de ce que je veux parler pour expliquer peut-être à ceux qui ont remarqué, les femmes démocrates, OK, pas les femmes qui sont républicaines, s'il y en a, il n'y a pas des tonnes de républicaines, encore très vieux jeu, les républicains. Donc, vous voyez beaucoup de femmes du côté démocrate qui étaient toutes en blanc. Ils étaient toutes habillées en blanc, que ce soit des trousers, peu importe la façon qu'elles étaient habillées, elles étaient en blanc. Donc, c'était marquant, ça frappait, avec la fameuse Cortez qui est toujours là, la nouvelle démocrate, Ocasio-Cortez, qui est rendue une star, cette femme-là. Pourquoi? Ben parce qu'elle danse, elle est jolie, des idées très arrêtées qui ne fait pas que les États-Unis, en passant, ça passerait jamais, les idées très de gauche, mais très jolie, la fille, très jolie, très sexy. Donc, elle était à l'avant-scène encore une fois. Ça me prend déjà beaucoup de place dans le milieu démocrate, ce qui est assez surprenant. Et Ocasio-Cortez était avec la gang, c'était habillé en blanc. Donc, je vous explique la raison, dans le fond, pour laquelle ils ont fait ça. C'est une espèce de... C'est une façon de souligner. Je ne savais pas qu'il est là depuis une cinquantaine d'années aux États-Unis, de mettre du blanc pour le droit des femmes, donc de mettre du blanc pour démontrer une certaine pacificité, montrer une certaine paix, mais par rapport au droit aux suffragettes. Donc les suffragettes, c'est les premières femmes qui avaient le droit de voter, qui n'ont pas eu le droit, mais qui ont fait pour que ce soit possible de voter aux États-Unis. Donc oui, en passant, les femmes n'ont pas toujours eu le droit de vote. On appelle ça les suffragettes en anglais. Donc, c'est un retour par rapport à ça. C'est une espèce de lien de respect de ces femmes démocrates-là par rapport aux droits des femmes à travers le temps. Et je pense que ça a été aussi initié particulièrement parce qu'il y a eu la nouvelle loi à New York sur le droit de l'avortement, qui, en passant, doit être compris. Là. Parce que, oui, c'est assez particulier. C'est une loi assez... les gens de droite, donc les religieux de droite, crient au scandale. Les gens de gauche crient au génie. J'ai entendu des choses des deux côtés qui n'ont pas de bon sens. Premièrement, j'ai entendu du côté de droite, la droite religieuse, dire que maintenant, à New York, c'était possible d'avorter jusqu'à la dernière journée de ta grossesse. Ce qui est pas vrai. Là. Ça ne fonctionne pas comme ça. Vous n'avez pas le droit d'avorter jusqu'à la dernière journée de votre grossesse. Là. Okay? Ça ne marche pas comme ça. C'est-à-dire que c'est possible d'avorter après 24 semaines si la vie de la mère est en danger. Donc, c'est ce que la loi dit. Si la mère va en mourir, on peut avorter plus tard que 24 semaines. Donc, ce n'est pas exactement ça. De l'autre côté, la gauche dit que c'est absolument merveilleux puis de mettre le droit. Il y a aussi un débat par rapport à l'avortement de façon fréquente qui doit aussi être là, je pense. Okay? Donc, nonobstant ça, je ne veux pas entrer là-dedans très glissant comme débat. Je veux plus parler de ça. Donc, là, c'est la raison pour laquelle notre belle Ocasio-Cortez et toute la gang étaient habillés en blanc. Il y a même la députée... qui est musulmane ou islam. Mais musulmane, dans le fond, elle est voilée. Elle n'est pas voilée, elle a juste un par-dessus la tête, un voile, mais sur sa tête, pas devant son visage. Elle a fait comme une espèce de mix absolument américain et drôle. Et d'autres femmes, là, très jolie en passant, elle a un voile sur la tête, son visage est très, très beau. Elle a fait comme un voile bleu, une affaire rouge, puis du blanc. Elle a fait comme du brun, blanc, rouge avec tout son mix. C'était drôle, là, sérieux. Oui, oui, félicitations à la musulmane mignonne. Ouais, mignonne, puis c'était une espèce de United States of Aid, c'était weird, tu sais, en passant, c'était pas le genre de choses que tu mets d'une date, là. J'avais arrivé de même d'une date, je serais là, ok. Fait que c'est la raison, si vous me demandez pourquoi il était habillé en blanc, c'est à peu près ça, c'est un espèce de respect, un respect pour les suffragettes qu'il y a eu aux États-Unis.
Your Majesty, may I present to you the greatest detective of all time, Sherlock Holmes, and Dr. John Watson.
I love you.
Watson?
Oh!
What a looker, right?
She is stunning.
Sherlock Holmes. Watson. C'est le nouveau, nouveau film. Ça a sorti il y a une couple de semaines, peut-être un mois, Holmes et Watson. Le film de... Écoute, si vous me donnez... J'avais fait un dans mon ancienne vie, quand j'étais dans l'ancienne vie, c'est pas longtemps, mais dans une autre émission que j'avais fait, des autres podcasts, un top 10 of the funny. Donc le top 10 des gens les plus drôles, selon Max Dory, dans le fond, avec des gens assez particuliers. Le premier étant Steve Little. Si vous connaissez pas Steve Little qui fait le gars... un peu stupide dans Outside and Bounds. Ça, tout le monde appelle ça Outside and Bounds. Personne n'appelle ça comme ça. Tout le monde appelle ça Kenny Powers. Vous n'avez pas vu cette série-là en passant? Hein? Kenny Powers. Quelle série drôle, mais débile. C'est vraiment ce qui me fait rire. C'est Outside and Bound. Dans le fond, c'est East Side and Bound. Pardonnez-moi. East Side and Bound avec... donc, c'est l'histoire de Kenny Powers. C'est pas une histoire vraie, c'est complètement stupide. Mais dedans, il y a donc Steve Little, qui est mon numériste favori. Mais là-dedans, il y a toujours eu, il y a encore Will Ferrell. Okay, Will Ferrell, lui qui fait Anchorman, lui qui fait Will Burgundy. Donc, il a sorti un film avec son... Tu sais, quand tu dis, il y a tout le temps des duos en humour qui sont absolument magiques, qu'il y a eu à travers le temps, le genre de ding-dong américain. Et il y a John C. Reilly et Will Ferrell. Pourquoi? Parce qu'ils ont fait deux films cultes aussi avant celui-là. Ils ont fait Talladega Night, la balade de Ricky Bobby. I will get you, Ricky Bobby. Et c'est vraiment, c'était un bon film. J'ai ri. Tu sais, il faut que tu connaisses l'humour de Will Ferrell et John C. Reilly, mais c'était bon. Ricky Bobby, c'était bon, c'était drôle. Donc, ils ont fait ça ensemble, mais c'est même pas là où ils ont été les plus marquants, où ils ont été les plus hot. C'est Step Brothers. demi-frères. Tu sais, les deux grands imbéciles de 40 ans, les deux grands colons qui vivent respectivement chez leur père et leur mère, qui se mettent ensemble, donc ils se rencontrent, donc fondent une famille, une nouvelle famille reconstituée comme il y en a des milliards aujourd'hui. Et, mais ces deux grands-là sont là parce que c'est comme leur enfant, mais à 40 ans. C'est deux espèces de grands colons absolument débiles. C'est vraiment drôle. Step Brothers, c'est un succès du début à la fin. Success worldwide. C'est leur entreprise qui crée. C'est vraiment drôle. Vraiment drôle. Et donc, et c'est comme ça qu'on nous l'a vendu, le nouveau film en question. C'est sûr, c'est comme un remake de Sherlock Holmes, comme si Holmes et Watson, donc Dr. Watson et Sherlock Holmes, Sherlock Holmes étant Will Ferrell, Watson étant John C. Reilly. Et donc, c'est un remake là-dessus à peu près. Puis on nous a dit c'est le retour des deux. Puis comme dans Step Brothers, comme dans Talladega Nights, de Ballade of Ricky Bobby. Ça, c'est un flop débile. J'ai jamais vu des critiques. Parce qu'en partant, des films comme ça, les critiques souvent sont hautains. Dans le sens où on donne jamais 90% fresh, comme sur Rotten Tomato, où on donne jamais une acclamation. On acclame jamais, ou du moins, on donne jamais une cote de fou à des films comme ça, parce que c'est des films ridicules. Tu sais, je veux dire, c'est épais, là. Mais souvent, on donne une note de passage en disant ben oui, pour ceux qui aiment ça, c'est très hautain. Mais dans ce cas-ci, c'est vraiment général. T'sais, on parle de 0%, 1%. C'est dégueulasse, les codes. Mais c'est même pas de ça que je veux parler, parce que je suis certain, moi, je ne l'ai pas vu encore. Je pense que je vais quand même rire à deux, trois endroits, c'est pas ça. Ce qui est incroyable, il y a un article sur The Verge aux États-Unis, qui est un média, qui résume bien ça. Le titre est Holmes & Watson's Failure Show How the World is Changing for Cinematic Comedy. Donc, le titre, si je le transcris, ça dit le film de Holmes & Watson, son échec, dans le fond, nous montre à quel point le cinéma change. Et c'est vrai. Pourquoi? Je vais vous prendre un exemple, puis je le prends souvent. J'ai une étude sur deux pattes qui est mon fils Titi, Antoine. Je lui pose des questions à cette étude. Ils ne connaissent pratiquement pas des références récentes. Tu sais, si je lui dis, est-ce que tu as déjà vu Top Gun? Est-ce que tu as vu Ferris Bueller's Days Off, exemple? C'est sûr qu'il va me dire, what the... C'est de quoi tu parles? What the fuck, dad? Ferris Bueller's Days Off. Aucune idée, c'est quoi? Je m'y attends. Si je parle de films comme ça, il ne va pas savoir de quoi je parle. Mais là, on parle de films récents et on parle d'acteurs qui, pour nous, dans le temps, étaient des monstres. Leonardo DiCaprio, Will Ferrell, Brad Pitt, Tom. Tu sais, des gens qu'on croyait récemment encore très actuels, ils ne le sont plus. Je vous le dis, ils ne le sont plus. La nouvelle génération ne les connaît pratiquement pas. Et particulièrement pour l'humour, et c'est ce que l'article dit, Jesse Asinger, et je suis totalement d'accord, parce que c'est les jeunes, leur humour, leur façon de rire est beaucoup plus rapide, beaucoup plus Internet, beaucoup plus subtil, et beaucoup plus... est moins lourde qu'un film, dans le fond, on peut avoir aujourd'hui, ou du moins, parce que c'est plus comme ça qu'ils le font du tout. Mon fils rit et adore l'humour. Sa génération, ils sont toujours en train de déconner. L'humour qui, peut-être, ne rejoint pas, parce que très empreinte de mimes, c'est-à-dire très empreinte de succès Internet et de patente Internet, mais ils vont rapidement, ils browsent sur des choses faites par Monsieur Tout-le-Monde qui n'ont pas nécessairement une esthétique agréable. Ça n'importe donc plus du tout pour la nouvelle génération une esthétique qui a du bon sens. C'est le contenu qui est important, ce qui est une bonne chose. On a toujours dit que l'extérieur était vraiment inutile, le contenu était l'important. Mais bordel, ils l'ont adapté, eux autres, à l'humour. Donc, ce film-là est problématique. Premièrement, le cinéma, je ne rentre même pas là-dedans, les gens ne vont presque plus au cinéma. C'est même pas ça. C'est le principe d'un film de 2 heures d'humour. Le principe d'un film d'humour. Pourtant, et c'est là l'énorme parallèle et l'énorme particulier dans ce cas-ci. Il y a quelqu'un qui a été à l'avant-garde au niveau de l'humour en ligne, c'est Will Ferrell. Et c'est ça qui est bizarre. Parce que oui, il fait encore ces films-là. Pourquoi? Ben parce qu'il doit être payé, mais ma foi, une espèce de pelleté. Will Ferrell est reconnu pour faire 20 à 30 millions par film. John C. Reilly, maintenant, doit l'accoter. Donc, ils ont ramassé le pactole en disant « In your face, m'en fous, j'amasse le pactole, je fais mes conneries pendant 2 ans. » Si vous pensez que c'est encore un médium qui peut rejoindre du monde. Mais pourtant, Will Ferrell a fait Funny or Die. Funny or Die, qui est un site, puis très tôt dans l'histoire d'Internet, OK? C'est vraiment révolutionnaire qu'il l'ait fait à ce temps-là. À un tel point que c'est quasiment vieux, Funny or Die, dans les Internets. Funny or Die, donc, c'est un site dans lequel tu peux poster toi-même. Donc, c'est un YouTube de l'humour, dans le fond. Mais c'était propriété de Will Ferrell. Et Funny or Die, je dis c'était, ça l'est encore, mais c'est moins trendy que ça l'était. Les gens allaient là, et ils pouvaient faire n'importe quelle connerie, puis tu cotais si c'était Funny or Die. Est-ce que c'est drôle ou c'est stupide? C'est le titre Funny or Die. La raison pour laquelle ça a fonctionné, entre parenthèses, c'est que Will Ferrell a des contacts, mais de façon débile. C'est-à-dire qu'il allait chercher tout son monde qu'il connaissait, il allait chercher tous les gens qui l'entouraient. Et il faisait, bon, t'avais, écoute, t'avais des Michael Cera qui était tout le temps là. T'avais d'abord qui, là, John C. Reilly qui faisait Dr. Steve Brule, qui c'est vraiment un must, Dr. Steve Brule. T'avais plein de monde comme ça, Tim and Eric, qui est dans mon top 10 des humoristes. Donc, il était déjà à l'affût de ça. Fait que je pense que par rapport à Will Ferrell, il le sait, ça, qu'il y a un monstre qui est le cinéma, un monstre d'ailleurs, un dinosaure malheureusement. Et il y a aussi la nouvelle technologie parce qu'il est dans plein de conneries. Il est dans plein de conneries modernes. Il y a plein de petites vidéos qu'il accepte de faire, qui dans le fond serait illogique pour le gigantesque carrière qu'il a. Mais vraiment, le film de Owen Watson démontre que l'humour, particulièrement l'humour, je dis vraiment l'humour, là, un film comme The Avengers, ces grosses cochonneries-là, que moi je déteste, là, mais qui est très aimé par la bande du monde, ça a encore leur place parce que les gens aiment une espèce de master production puis aiment de quoi de big à voir au grand écran pendant 2 heures. Mais pour ce qui est de l'humour, l'humour maintenant est très rétréci en son temps. On parle de quelques secondes. On parle de jokes très précises, coupées pour que ça aille vite, qu'on puisse changer de sujet rapidement. Donc, les films particulièrement d'humour semblent, malheureusement, je le dis, semblent malheureusement freaking dépassés. Mais en même temps, je répète, il ne faut pas trop taper fort sur Will Ferrell, qui lui semble le savoir, puis juste ramasser le chèque.
Continua abrumandomi la vergüenza de que personas que tenían a su cargo el tierno cuidado de esos pequeños les violaran y les causaran graves daños. Lo lamento profundamente. Dios llora. Ellos.
L'homme que vous entendez, qui est ma foi un entertainer qui me dépasse au niveau du
tripant.
D'où n'entendra pas. C'est le pape Francis, Pope Francis, qui parlait d'abus sexuels qui a été fait à l'Église. Donc, il faut féliciter quand même l'homme puis ce qu'il est en train de faire dans l'Église catholique. L'Église catholique qui a toujours été très frileuse à admettre les scandales sexuels. Qu'il y en a eu. Il y en a eu. Pourquoi? Ben, si vous voulez mon humble avis, je me lance. L'Église catholique n'admet pas le mariage pour les prêtres. Donc, puis ni les sœurs, les nonnes, c'est... Et dans la Bible, ce qu'on dit, si vous voulez le savoir, ça dit simplement, celui qui se marie fait bien, celui qui se marie pas fait mieux. C'est simplement ça. Ça dit pas de pas se marier, en passant. C'est juste que si vous vous mariez pas, ben vous avez plus de temps à consacrer à ce que vous faites, ce qui est logique. Si je pars une business, puis je suis pas marié, je vais mettre 90 heures en semaine. Si je suis marié, je vais aller... C'est simplement ce que dit la Bible. Mais ça dit, si tu te maries, tu fais bien aussi. Donc, la problématique, selon moi, c'est de ne pas laisser ces gens-là se marier. Donc, avec énormément... Bon, ça crée toute la marde qu'ils ont fait. Mais on revient à ce que Pope Francis, donc, avoue pour la première fois, ou du moins, il a fait une certaine ouverture par rapport à l'abus sexuel. Pourquoi ça n'a pas été fait avant? C'est pas qu'il ne le savait pas. C'est pas qu'il ne le reconnaissait pas. C'est une espèce de crainte de payer. C'est le cash. Money! Parce que l'Église catholique est encore une institution, mais ma foi, trilliardaire. Ils savent très bien qu'en commençant à admettre des abus sexuels à travers le temps, ça va leur coûter une pactole. Parce que les gens vont finalement... Écoutez, quand tu as un aveu du chef de ton institution, mais imaginez après ça en dessous, quand tu vas en cours, tu as juste à te présenter devant le judge, tu dis « That's it ». Et voilà, Pope Francis, 2017, va dire ceci. Ce qui fait que, tu sais, ça aide une cause. Donc, qui sait que ça va coûter des milliards de dollars à l'Église catholique, mais au moins, il n'y a pas le froid, il le fait. Donc, c'est assez... Et il le fait depuis un certain temps. Donc, on entend toujours... Un discours qu'on connaît malheureusement très triste d'abus sexuels sur des jeunes enfants, souvent de jeunes garçons, beaucoup d'homosexualité là-dedans, beaucoup d'abus de jeunes garçons, je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça, beaucoup d'abus de jeunes garçons par des hommes, par des prêtres. Il y a eu des abus de toutes sortes, il y a eu des abus des sœurs aussi face à des jeunes filles, à des jeunes garçons, il y a eu de tout. Mais ce qu'on connaît, du moins, si on est honnête, c'est surtout ça, là. C'est surtout de l'abus de jeunes garçons par des prêtres. Et ça, ça a été, on en parle souvent. Mais là, aujourd'hui, on parle du... Donc, le pape fait encore une admission aujourd'hui. Celle-là est un peu plus bizarre, là. Je l'avais pas vu venir, celle-là. T'sais, lui, il est rendu... Je pense qu'il fait vraiment le ménage, le pape, là. T'sais, il sort toute la marde, puis il est rendu dans sa feuille de fond de tiroir. Puis bon, celle-là, c'est quoi donc cette cause de marde qu'on a faite, la cochonnerie? Donc, il admet que les sœurs étaient abusées par les prêtres. Mais t'sais, là, t'expliques, tu dis, bon, OK. Mais après ça, là, c'est comme des esclaves sexuels. Ça finit plus. Là. Il sort des exemples d'esclaves. Donc, il gardait les sœurs emprisonnées pour pouvoir. Hey, c'est what the fuck, là? Commence à être pété, là. Je veux dire, c'est bon, le gars, il admet ça. Écoute, le gars, il admet tout. Là. Il est parti, puis c'est bien en passant. Là. Je dis ça avec ironie, mais c'est complètement bien. Donc aujourd'hui, hier, le pape a admis qu'effectivement, il y a eu énormément d'abus de la communauté de sœurs autour. Effectivement, quand tu y penses, c'est clair que, je dis pas que c'est logique et ça devait se faire, mais tu dis, ouais, c'est sûr que ça a dû arriver. Là. Il y en avait de très jolis, parce qu'à une certaine époque, il y avait pour une famille, c'était bien vu, c'était même demandé de mettre un de ses enfants dans le service religieux, ça bénissait ta famille. Souvent, donc, il y a une fille qui était choisie pour rentrer chez les sœurs, et c'était contre sa volonté, souvent, là. Elle s'y faisait avec le temps, mais elle rentrait pas là en disant « Yes, c'est à moi! » Fait qu'elle était choisie, souvent, dans la famille, ou un frère ou un fils pour être prêtre, pour donc bénir la famille, puis me donner une espèce de bénédiction, carrément, qui arrivait à la famille. Donc, ces jeunes filles-là étaient des filles qui avaient un désir, une vie, un cœur, et tout ça, et souvent très jolies, donc... Donc, oui, effectivement, il y a eu ces abus-là qui ont été faits. Donc, ça a été admis par le pape, disant que... Mais là, de là à dire qu'on là, on les embarrait, puis on allait... L'être humain étant ce qu'il est, c'est tout le temps dégueulasse. Il y a tout le temps cette espèce d'exagération-là, crasse, dégueulasse, qui arrive. Ils ont abusé, les embarrer pour faire ça, c'est dégueulasse. Mais oui, donc ça a été admis par le pape. Faut donner vraiment, je dis ça tout le temps régulièrement, mais il faut donner à César ce qui revient à César, oui. Thank you d'applaudir, tout le monde. Moi, je suis dans le public. mais tu sais, je veux dire, le gars, il a du guts, pareil, pour annoncer ça, je vous le dis. Pourquoi il y a du guts, je le répète, parce que ça va coûter une sale pactole à l'Église catholique qui l'admette, ce genre de patente-là. Ça va être, c'est évident. Mais il le fait, fait que félicitations à ce gars-là.
I'm Daniel Leck. I'm the CEO and founder of Spotify. So what drew me to create Spotify was really that I saw the world changing. People were consuming a lot more music than ever before from a bigger diversity of artists. But at the same time, those artists weren't being compensated. So the way I think about brands interacting in the space of music is we have...
Donc, vous entendez Daniel Ek. Daniel Ek. Okay. Un jeune homme, encore une fois, un de ces milliardaires de Silicon Valley. Un des jeunes whiz qui a parti des business et qui aujourd'hui valent des milliards, c'en est un, Daniel Ek, EK. Daniel Ek, un gars pas de cheveux, qui a l'air très sympathique, qui lui est propriétaire et le fondateur de Spotify. Fait que si vous êtes sur Spotify, vous donnez de l'argent à Daniel Ek, qui lui est un milliardaire. Et là, aujourd'hui, la nouvelle est importante pour moi, est importante pour bien du monde, puis démontre une tendance très importante. Si vous êtes en train de m'écouter au moment où on se parle, sachez que vous êtes des trendsetters. Donc, vous êtes des gens cool, vous êtes des gens à l'avant-garde, vous êtes des gens du futur. Vous êtes des gens qui font des tendances, donc trendsetters, ce qu'on appelle en anglais. Pourquoi? Parce que Daniel Ek vient d'investir 500 millions de dollars. Il vient d'acheter une compagnie de podcast uniquement pour ajouter vraiment une fonction qui était déjà là sur Spotify, mais qui était moins assumée. Là, Spotify a acheté une compagnie pour faire uniquement et avoir une division complète de podcast. Ils le font, ils viennent de le faire à coût d'un demi-milliard de dollars. Milliards. Pourquoi? On nous explique qu'il y a une croissance hallucinante du podcast. Une croissance hallucinante de ce type de média-là, cette façon de consommer de l'information-là, ou bien du moins de n'importe quoi que vous écoutez. Et c'est très, très populaire. Ça double à chaque année. C'est fort, c'est sans image. C'est surprenant parce que tout le monde s'en allait pour un média de plus en plus inclus, de plus en plus multidimensionnel. Ils disaient que ça va être de plus en plus haut. Donc maintenant, on a ajouté l'image dans les années 50, on a ajouté la couleur dans les années 60, on va ajouter le 3D, on va ajouter le 4D, l'odeur, ça va être. Les gens vont s'en aller puis vont consommer de plus en plus de médias avec des dimensions de plus en plus augmentées. Et on réalise que non, les gens ont besoin d'entendre des choses simples comme ça, ont besoin d'écouter des nouvelles, d'entendre parler d'un meurtre, de ci, de ça, de patente. Et même si l'image n'y est pas, c'est très fort. Pourquoi? Parce que c'est un moment de la journée, souvent quand on le fait, où on fait autre chose, où on relaxe. Et on ne veut pas non plus. Il y a tellement d'images et de patentes dans notre face, dans la vie, que souvent le podcast a sa place. Spotify, donc un trendsetter à l'époque qui est arrivé, qui a commencé le principe de music sharing, c'est-à-dire que vous achetez de la musique, payez mensuellement, vous avez accès à tout. Maintenant, il le faisait depuis un certain temps, mais investit fortement dans le podcast. Parce qu'il comprend le principe du podcast. Donc Daniel Ek a compris ça. Donc je répète ce que je vous dis. Si vous êtes en train de m'écouter, là, vous êtes, c'est vrai, là, vous êtes, pour un Québécois, vous êtes à l'avant-garde. Vous êtes un trendsetter. Vous êtes un trendsetter. C'est hot, là. Il ne faut pas s'enlever. Enlevez pas. Non, acceptez-le. Là. Vous êtes quelqu'un à l'avant-garde, puis vous pouvez dire autant autour de vous que vous avez commencé à bien avant tout le monde à faire ce genre de patente-là qui est de faire ça. Cette nouvelle faste que je trouve intéressante et surprenante, puis je suis fier pour eux. Première fois que The New York Times, le journal, le média du New York Times, a des profits sur Internet. Fait du profit sur Internet, c'est... félicitations, New York Times. Et ça, on pensait pas. On disait que c'était toute mort, la mort des gros médias, des dinosaures, et avec raison, New York Times, Washington Post, même les journaux au Québec aussi. Et ils tournent des profits. Ça marche sur Internet. Ils ont réussi à comprendre le web. Les gros journaux ont réussi à comprendre le web. Donc, un profit de 55 millions après avoir perdu des années de temps. Un premier profit par rapport et uniquement au web. Ils ont compris comment passer la nouvelle et leur pertinence parce qu'ils le sont pertinents. Et ce qui est bien avec ça, et on le dit, puis je le répète, puis je suis d'accord, de Time Magazine dit qu'ils ont un profit de 55 millions tout en employant 1600 journalistes. Et c'est là que c'est hot. C'est là que c'est hot parce que certains médias comme TVA avec l'agence QMI diminuent de plus en plus, va chercher des pigistes, ne payent plus vraiment, va chercher des nouvelles de gens qui leur dompent à gauche et à droite. Tu génères un profit, tu dis bon, ils ont totalement détruit l'industrie du journalisme, puis bon, ils font un profit, fine, bravo, tu sais, mais entre parenthèses, là, genre de clapping que Nancy Pelosi a fait à Donald Trump hier, là, c'est devenu un mime à passant, si vous ne l'avez pas vu. Donc, on y fait un genre de clapping de même. Mais le New York Times garde des éditorialistes, des journalistes d'enquête, des ci, des ça, 1600 journalistes payés. Donc, il continue à faire une sale job, à rentrer dans le derrière de Donald Trump et du reste de la planète, ce qui est essentiel d'une société. Si vous ne comprenez pas l'importance de journalistes dans une société, la différence entre l'Irak, la dictature irakienne, la dictature de Gaddafi, la dictature de Ben Ali, la dictature de n'importe qui, de Pinochet, et la différence entre ça et les États-Unis et le Canada et l'Europe, c'est les journalistes, c'est la nouvelle, c'est les gens qui dénoncent. Donc, le New York Times a gardé cette philosophie-là, a fait un profit tout en gardant 1600 journalistes. Et ça, c'est vraiment incroyable. Ça reste que c'est en vie, ça fait du bien. Prenez un grand respect, c'est-à-dire que la démocratie est encore possiblement sauvée parce qu'il reste de grands médias qui ont gardé leur structure interne, qui ont gardé leur façon de fonctionner. Et qui vont générer un profit. Fait que c'est nice, c'est bien ça, c'est une bonne chose, OK? Puis Citation, c'est pas les premiers, donc Washington Post aussi, The New Yorker, ont réussi. Certains demandent des dons, littéralement, c'est une nouvelle façon de faire, c'est gênant pour eux. The Guardian demande des dons en ligne. Ils demandent des dons, là. T'sais, c'est pas une farce, là. T'sais, tu lui as... Mais ils ont trouvé des façons d'avoir, tu sais, en disant, regardez, on travaille fort, on est sincère, et ils se réadaptent, ils s'ajustent, donc. Ils s'ajustent à trouver des façons de faire, puis c'est merveilleux. C'est les nouvelles que j'avais today. C'est les nouvelles dont je voulais parler. Il y en a d'autres qui me restent, mais je vais aller explorer un peu plus, prendre un peu plus en profondeur. Je l'ai vu, il y en a une, parce qu'il y a encore eu un innocent qui avait un blackface dans la même état du Virginie. C'est rendu... Puis la Virginie, c'est un écapou. Hein. La Virginie, c'est un genre d'Alabama de l'Est. Là. La Virginie, c'est bourré de racistes là-dedans. Puis là, ils se réalisent que le trois quarts des gens qui sont au pouvoir là-bas essaient de dénoncer le dude qu'il a fait. T'sais, lui, là, qu'on avait parlé cette semaine, qui voulait imiter Michael Jackson, sa femme a dit « t'as pas de classe ». Ben là, le monde dit hey, « il n'y a pas eu de classe, ce gars-là, il devrait démissionner. » Puis là, tous ceux qui chiolent contre lui admettent un par un « ben peut-être qu'une fois, j'ai fait ça. » C'est toute une gang de racistes, une espèce de nid de racistes dans la Virginie. Puis on le savait, comme je vous l'ai dit, c'était vraiment la capitale du Sud, Charleston. T'sais, c'est la capitale des racistes, la capitale de la guerre dans le Nord et le Sud. Le Sud étant ceux qui étaient pour l'esclavage contre Abraham Lincoln au Nord. C'est là que ça se passait. Donc, ça n'a pas changé. Ça fait simplement 100 quelques années. Ça fait 150 ans. Là, c'est pas en temps de là de moi que ça va changer. Il y a encore du racisme au pied carré dans ce coin-là. C'est absolument débile. Vous allez voir ce que je fais sur Maïkové Maxime Doré Podcast. Vous allez voir ce que je fais. Vous allez voir sur Spotify dont on vient de parler, sur Apple Podcast. Belles choses qui s'en viennent, moi, dans le futur, on va travailler fort sur bien des affaires, on va grandir là-dedans, on va grandir dans le monde du podcast. Je vous aime gros, comment je vous aime gros? Donc, je n'avais pas pensé avant de partir, je peux vous aimer gros, comment? Je vais regarder dans mes nouvelles. Je vous aime gros comme Spotify aime gros le podcast.